Vous écoutez Playlist, la web radio, et nous rencontrons aujourd'hui Fabrice Solaire, un artiste sympathique, qui est avec nous.
Bonjour Laurent, pour le sympathique.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir au téléphone.
Alors, en général, tu fais quoi là, le week-end?
Le week-end à Nice, en ce moment, c'est...
C'est un peu compliqué.
Ouais, tu fais un peu comme tout le monde, mais c'est vrai qu'à Nice, en plus, on a cette particularité d'être confiné en ce moment comparé à d'autres régions.
Donc toi, tu es chanteur.
Ouais.
Auteur, compositeur, interprète.
Exact.
As-tu fait la totale?
On essaye, il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ouais, c'est sûr. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter?
Artistiquement, si tu veux, j'ai commencé la musique quand j'avais 4 ans. Mes parents m'ont mis très tôt au solfège et au chant. Et après, j'ai fait le conservatoire de Nice dans section solfège, chant, percussion. Et en parallèle, j'ai un peu appris le piano, la guitare, et j'ai fait mes premières armes dans mes groupes de reprises quand on était adolescent dans nos garages.
On va revenir un peu dans ta jeunesse. Moi, je voulais savoir quel a été le premier 45 tours ou CD que tu as eu dans les mains.
Alors, le premier CD, on va dire, qui m'a marqué vraiment, il y avait une cassette qui m'a marqué, c'était une cassette des Beatles. C'était Let It Be, où il y avait un morceau que j'adorais qui s'appelait I've Got a Feeling. J'adorais ce morceau, j'étais tombé amoureux, donc d'avoir 10-12 ans à ce moment-là. Et après, le premier vrai CD qu'on avait flippé avec un pote, c'était un CD d'Aerosmith. Donc c'était du rock la USA des années 80-90, c'était un best-of. Et là, je suis tombé amoureux.
Donc dans ta jeunesse, les influences étaient très rock en fait?
Après, j'écoutais beaucoup, enfin, là, je te limite juste pour répondre à ta question. Après, j'écoutais beaucoup, malgré moi, par mon père, de Brassens, de Brel, de Bobby Lapointe, parce que ça tournait beaucoup chez nous. Donc, c'était un peu les deux, c'était en parallèle. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, le rock, à notre époque, ça matchait directement.
Et le déclic pour la musique, quand tu étais jeune, ça s'est passé comment et c'était quand?
C'est un peu ce que je te disais, c'était les premiers, l'envie de faire de la musique ensemble en fait. Donc avec tes potes de l'époque, t'es entre le collège et le lycée, tu veux mettre un peu à profit maintenant que t'as eu un enseignement, on va dire plus classique du conservatoire, tu veux le mettre à profit derrière un instrument, derrière un micro. Donc ça a été, voilà, ces groupes de garage où on a commencé à reprendre du... C'était effectivement très rock, voilà, avec des guitares électriques, de la batterie, donc du téléphone, du AC/DC, des choses comme ça. Pas trop de français au début, c'est un peu du Noir Désir, voilà, mais c'était toujours très très dans cette ambiance et ce bain très très pop rock.
Et le rapport avec la famille et la musique, ça s'est passé comment?
Comme je t'ai dit aussi, mes parents ils m'ont mis très très tôt en fait, mais ils ont fait ça parce qu'ils voulaient que j'aie une activité extrascolaire, donc ils ont fait ça un peu au hasard. Mes parents sont pas forcément musiciens, même s'ils ont, comme beaucoup de personnes, de français, ils aiment les arts. Donc du coup, moi j'ai été plongé là-dedans un peu malgré moi, je comprenais pas tout ce qui se passait, puisque je pensais avoir une vie, on va dire, standard, comme les autres enfants, mais en fait je me suis aperçu très vite que moi le matin j'allais dans des cours traditionnels, j'apprenais le français, les maths, etc. Et l'après-midi j'apprenais un instrument. Je me suis rendu compte que tout le monde ne faisait pas ça.
Et quel instrument alors?
J'ai commencé par les percussions.
Et là maintenant?
Maintenant.
Ouais, la guitare peut-être?
La guitare, je suis très regardant avec mes batteurs du coup parce que j'ai cette base, donc je suis très axé sur le tempo, le rythme, le groove. D'accord. Mais maintenant en tout cas, voilà, j'ai fait un peu de piano, un peu de guitare, maintenant je fais beaucoup de guitare acoustique, je m'accompagne. Mais sans le groupe, sans mes musiciens, moi j'aime bien avoir cette cohésion avec les musiciens et que les musiciens accompagnent ce que je compose, ce que j'écris. Au service du public.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais auteur, compositeur, interprète. Tu écris depuis combien de temps?
J'écris depuis toujours, en fait, depuis à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait monter sur scène en écrivant des chansons et les proposer au public. Donc du coup, ça fait, on va dire, depuis mon adolescence. Maintenant, j'en suis... disons que je n'ai pas honte de proposer mes chansons depuis, on va dire, depuis 10-15 ans. Et à partir du moment où tu deviens un peu jeune adulte et que tu as des choses à dire.
Donc tu as encore des titres, des paroles dans les placards?
Ah, j'en ai plein. Aux grandes dames de beaucoup de gens autour de moi, parce que j'ai du mal à laisser les choses dans les cartons, donc du coup j'essaye toujours d'aller jusqu'au bout, mais ça prend du temps. Et pendant le temps que ça prend, bah, j'ai l'inspiration, elle ne cesse pas. Donc j'ai des tas de chansons qui sont dans les cartons, et il faut que je priorise selon le moment et selon mes humeurs et selon ce qui est bon aussi par rapport au texte, l'actualité, etc.
Ah, d'accord. L'inspiration, donc c'est l'actualité, c'est...
Moi, je vais taper dans des thèmes qui me sont chers, comme tout le monde. Donc c'est à la fois très perso et très universel. Forcément, des chansons d'amour, ça, on peut pas y couper par rapport à son vécu. Mais après, moi, j'aime bien parler de la quête de l'identité, se retrouver avec soi-même, le voyage, des choses comme ça qui me tiennent à cœur. En général, ça part de là.
Et tes idées, elles arrivent la nuit, le jour ?
C'est marrant que tu me dises ça parce que ça m'est jamais arrivé de nuit. J'ai souvent lu dans des interviews d'artistes où tu disais j'ai rêvé d'une chanson et je l'ai écrite en 15 minutes. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais dernièrement, il y a un mois, je me souviens très bien de mon rêve. Je trouvais que la chanson, elle était extra dans le rêve. Et je me suis réveillé, je suis allé dans ma salle de bain et je me suis rendu compte que cette chanson n'existait pas. Donc c'est la première fois dernièrement que je l'ai enregistré sur mon portable vite fait à 4h du matin, et le lendemain j'ai trouvé que c'était encore pas si mal, parce que des fois avec le recul tu trouves c'est pas toujours génial. Mais sinon, pour répondre à ta question, deux jours assez avec l'esprit assez frais.
En 2015, tu as sorti ton premier album, Faut que ça bouge.
Oui.
Avec qui tu t'es entouré pour cet album?
C'était mon premier album où je faisais tout de moi-même de A à Z. Donc j'ai pris effectivement des gens, des intervenants, des musiciens de session, mais disons que j'avais le dernier mot, parce qu'avant je faisais mes groupes, et dans tous tes groupes, à partir du moment où t'es 4 ou 5, c'est du 20-25% chacun qui a le droit de donner son mot. Donc là, je me suis entouré de musiciens de session, des amis, qui sont toujours là d'ailleurs en général, qui servent le projet aujourd'hui. Mais on va dire que cet album, c'est moi à 100% avec le cœur.
Voilà. Eh bien, ça tombe bien, tu sais quoi, on va écouter le titre « Faut que ça bouge ».
Tu veux aller de l'avant, mais tout va si lentement. Dès que tu veux t'envoler, quelqu'un se glisse à côté. Alors tu crois naïvement que tout ira plus rapidement, mais tu étais loin de penser que rien ne décollerait. Ne dit-on pas, on ne peut compter que sur soi. Si c'est ton cas, ne t'encombre pas. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Ne plus t'éparpiller. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Arrête d'écouter. Faut que ça bouge, bouge, bouge. D'écouter la vie des uns des autres. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Qui rumine et radote. Hey! Tu ne peux plus rester en place. Il faut que quelque chose se passe. C'est fini d'être à la traîne. C'est l'heure d'entrer en scène. Changer le cours des choses. Ouais, ne plus t'accorder de pause. Tant que tu n'as pas décroché les étoiles tant convoitées. Assez de se noyer dans mille projets. Entouré de vautours affamés. Faut que ça bouge, 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 bouge. Ne plus te compliquer. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Arrête d'hésiter. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Le temps ne t'attend pas. Faut que ça bouge, bouge, bouge. Il n'en tient qu'à toi. Assez de voir ces journées défiler, t'affiler. Sans que jamais rien ne semble changer. Tout doit changer. Hey. Tout le monde.
bouge, 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 bouge.
Oh, tout le monde, tout le monde, tout le monde bouge.
Faut que ça bouge, 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 bouge.
And, oh, oh, oh.
Faut que ça bouge, bouge, bouge.
On vient de s'écouter le titre « Faut que ça bouge » de Fabrice Soler. Il est avec nous sur Playlist, la web radio. Et j'ai entendu dire qu'il y a, oh, il y a un bon bout de temps maintenant, tu as fait la première partie de Alain Turban à l'Olympia.
Ouais, je dois beaucoup à Alain qui s'est intéressé à moi à un moment et on est toujours en contact d'ailleurs. Et je lui avais envoyé un peu par hasard parce qu'il avait son label d'édition, mais moi je savais pas que c'était relié à lui. Je lui avais envoyé mon premier album et comme il s'est un amoureux de Montmartre, Alain, il y a une chanson dans l'album, la 3, qui s'appelle Une chambre à Montmartre. Je pense qu'il a été sensible à ce titre et du coup on a discuté après, on a échangé et effectivement il m'a invité sur son Olympia en 2016. Et c'était un moment incroyable pour moi parce que du coup tu mets le pied sur Paris et en plus tu commences par l'Olympia, donc je pense que c'est presque trop.
Il y a eu combien de soirs?
Ah, il l'a fait qu'une fois, c'était une représentation de. C'était qu'une seule fois. Parce que c'est lui qui produit tout, donc je suppose que c'est pas donné, d'une certaine manière, de tout produire. Mais en tout cas, le passage, il est resté gravé en moi.
Et qu'est-ce que tu retiens de cette soirée?
Oh bah c'était fou parce que tu arrives sur un lieu mythique, y a une énergie incroyable, tu vois, il faut vraiment le vivre. Pour t'en rendre compte, je m'attardais sur chaque détail, des loges au fauteuil rouge, à la salle, surtout que j'étais moi, je suis allé en tant que spectateur plusieurs fois, donc te retrouver de l'autre côté. Ce qui était cool, c'est que j'ai pas eu peur, parce que je fais de la scène depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai commencé très jeune, donc c'est une scène petite ou celle-là, j'ai pas eu peur, par contre j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre sur le moment. Et les musiciens qui accompagnaient Alain me l'ont bien rendu parce que ils étaient très généreux aussi. Et le public, je pense que ça a plu sur le moment. D'ailleurs, il y a une belle vidéo sur YouTube que j'ai gardée qui est tournée de manière pro et on peut voir ce moment.
On en parlera.
Où je chante une chanson.
On en parlera juste après au niveau de tout ce qui est YouTube et Internet, etc., etc. Mais pour le moment, on est sur la scène et j'ai des questions sur la scène. La toute première fois que tu es monté sur scène, c'était quand? Il y a longtemps peut-être? Ouais, c'était peut-être au niveau de.
C'était les premières fêtes de la musique quand on était fin ado, jeune adulte, donc j'ai plus de date en tête, mais on va dire qu'avec mon groupe, ouais, c'était vers 16, 17, 18 ans.
Et le meilleur moment sur scène?
Alors le meilleur moment sur scène, c'est difficile à répondre à ce genre de questions, mais j'ai un très bon souvenir avec mon groupe de. Alors là c'était pas en compo parce que j'ai pas mal de formations différentes. Et on a fait les 24 heures du Mans en 2019, je sais plus maintenant avec tout ce qui se passe, je crois que c'est ça, juin 2019. Non, on était confinés, non, je sais plus.
Non,
oui, c'est ça. Oui. Ouais, 2019, et on a fait les 24 heures du Mans avec mon groupe de reprise, Karma, et c'était fou. Là, on était sur une grosse scène, il y avait 2000 personnes devant nous, et il y avait une telle énergie, on a joué 2 heures quasiment. Et alors là, on a pris notre pied comme rarement on a pris. Mais il y a d'autres très bons souvenirs, comme l'Olympia par exemple, comme le Festival à Luna, sûrement on va en parler derrière. Mais là c'était vraiment. Tout le monde était relax, il y avait une très bonne ambiance. Et l'événement, en plus les 24 heures du monde, nous on ne connaissait pas. Et c'était vraiment génial à prendre en tant que musicien, toute cette énergie en fait.
Et le pire moment?
Le pire moment, je pense que c'était aussi avec mon groupe de reprise, parce que en général quand tu joues sur tes compos, t'arrives toujours dans des scènes plus sympas, il y a toujours plus de staff qui t'accueille, c'est pas tout à fait la même chose. Avec mon groupe de reprise, on faisait à la fois des grandes scènes, enfin des belles scènes, et aussi on fait du pub, tu vois, ou de l'événement privé. Et je pense que je pourrais pas te dire, mais on a fait des tournées en Savoie des fois l'hiver ou en Suisse. Et des fois tu tombes sur des endroits, c'est pas terrible quoi, mais ça fait de bons souvenirs et on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on écrive un bouquin là-dessus.
Bon après c'est une bonne école peut-être, non?
Ah oui, c'est pour ça que je te dis que j'ai plus trop, enfin moi on me demande souvent ça, si j'ai de l'appréhension pour monter sur scène ou quoi, je vais pas mentir que absolument pas aujourd'hui grâce à tout ça en fait, derrière, mais on a galéré.
Alors j'ai cherché sur internet, j'ai cherché sur YouTube, tu as fait très peu de covers en fait.
Alors avec mon projet effectivement Fabrice Soler, j'en ai fait très peu, ouais, effectivement. parce que c'est pas quelque chose. Genre, j'en fais tellement avec mes groupes sur la région de la Côte d'Azur.
Si, je crois que j'ai vu que t'en as fait une seule, c'est la reprise de Jacques Brel normalement.
En fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Jacques Brel, et c'est même pas une reprise. Jacques Brel, c'est un morceau qui est écrit par Alain Turban et Mario Santangeli, pardon. J'arrive jamais à le dire. Pardon Mario. Ils ont écrit ce morceau. J'ai adoré ce morceau. À la base, il devait pas être pour moi. Il m'a juste fait écouter ça à Alain pour avoir que j'ai son avis, et il m'avait fait écouter 2-3 morceaux qu'ils avaient écrits pour. Ils voulaient faire un spectacle sur Brel, etc. Et moi, j'ai dit, écoute, si t'en fais rien de cette chanson, moi, je te la prends juste pour le plaisir. Et au final, elle a muté, en fait, cette chanson, parce qu'elle m'a plu. On a eu une petite touche, une accroche avec quelqu'un, mais ils nous ont dit, bah, c'est un peu à l'ancienne. Donc moi, j'ai refait une version remix derrière que j'ai sortie il y a 2 mois. Donc on peut l'écouter encore sur toutes les plateformes. Donc c'est pas vraiment une reprise, celle-là. Mais j'ai fait une reprise de Georges Brassens dans le premier album, Les Trompettes de la Renommée,
ouais.
qui a été arrangé par un pote à moi qui s'appelle Hugues Lefebvre, qui a beaucoup bossé sur ce morceau. Moi, j'ai quasiment que chanté dessus, mais la reprise elle avait bien marché à l'époque, elle avait eu son petit cachet, on va dire. Et j'ai fait aussi une reprise de Maroon 5 que tu peux trouver sur YouTube, mais que je mets pas trop en avant, mais le clip a bien marché aussi. C'était Move Like Jigger, et je l'ai fait en duo, et ça aussi ça avait bien fonctionné.
Est-ce que tu pourrais nous parler de Gurvan Nantel?
Gurvan, je l'ai rencontré l'année dernière, en fait, pas physiquement, de manière interposée, voilà, avec le téléphone virtuel, etc., c'est facile de communiquer aujourd'hui. Effectivement, lui et Alexandre Artedon, ils ont fait, donc ils travaillent avec moi, en tout cas, ils travaillent en binôme, ils ont fait les rencontres à Stafford de chez Cabrel, et donc on s'est rencontrés pas comme ça, mais voilà, ils m'ont été présentés comme ça. Et ça a de suite collé, donc effectivement, il écrit toujours pour Amir. Donc c'est un des paroliers d'Amir, sur le dernier album par exemple, et c'est un grand plaisir, un grand honneur de l'avoir, et d'avoir Alexandre aussi, parce que déjà ils commencent à avoir un nom, et puis notre manière de travailler est très simple, je lui envoie... En fait c'est la première collaboration vraiment que j'ai faite au niveau des paroles avec Gurvan, parce que je voulais arrêter d'écrire un petit peu moi, au niveau des textes.
Tu en avais marre?
Il y a des choses à dire à certains moments, il y a d'autres choses à moins dire, et je pense que j'étais dans une période où j'avais moins envie d'écrire, de coucher des mots sur le papier, et plus des notes, voilà, sur les partitions. Et puis j'avais envie de collaborer, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça ferait de chanter les mots de quelqu'un d'autre. Et au final, je suis très content, on a fait 4 chansons ensemble, j'en ai sorti une là, il y a la deuxième qui est en train de sortir, il y en a 2 autres que je peux encore sortir. Parce que ça prend du temps tout ça, mais en tout cas une collaboration, j'espère qu'il va continuer. Voilà, on s'est souvent sur WhatsApp ou au téléphone. C'est quelqu'un de très gentil, très très humain, très sincère, et bon, pas d'ego. Moi, c'est avec ce genre de personne que j'ai envie de travailler.
On va faire une pause, on va s'écouter le titre « Je reviens de loin ».
Tout en bas, tombé dans les abîmes, mon cœur se bat pour mon âme, ces douleurs qui m'abîment, ces blessures qui m'accompagnent, elles ont tant à me dire, ravive autant qu'elles font mal, tout seul je dois tenir, revenir. Quand je sors enfin de ces nuits trop profondes, de ma poitrine au bout des mains, j'entends soudain mon cœur crier au monde. Moi je reviens de loin, là où les bateaux sombrent, là où les sirènes nous appellent et nous entraînent au plus près de nos ombres. Moi je reviens de loin, tout en bas, où les anges n'osent venir, mon cœur se serre et ressasse ce que je n'ai pas vu venir, ce que j'ai perdu sans faire face. Il y a tant
à redire. Personne pour prendre ma place. Tout seul je dois tenir. Revenir. Et quand je sors enfin de ces nuits trop profondes, de ma poitrine au bout des mains, j'entends soudain mon cœur crier au monde. Moi je reviens de loin, là où les bateaux sombrent, là où les sirènes nous appellent et nous entraînent au plus près de nos ombres. Moi je reviens de loin. De ma poitrine au bout des mains, j'entends soudain mon cœur crier au monde. Moi je reviens de loin, là où les bateaux sombrent, là où les sirènes nous appellent et nous entraînent au plus près de nos ombres. Moi je reviens de loin. Je reviens de loin. Na-na-na.
Vous écoutez Playlist, la Web Radio, et c'était « Je reviens de loin » de Fabrice Solaire. Un nouveau titre, en fait.
Un titre assez frais, ouais. J'ai sorti...
Qui fait partie du dernier EP, en fait.
Qui va faire partie du prochain album, en fait. Donc là, l'album, il y aura 12 chansons, j'en suis à 8. Je fais une chanson par coup, on va dire, à chaque fois, tous les mois ou tous les deux mois, et dès que j'en ai 12, je sors l'album. Donc ce sera effectivement, et ce sera peut-être même le titre de l'album.
Alors pourquoi tu ne fais pas comme les autres artistes, tu ne sors pas de EP, direct un album?
Alors,
c'est une question dure.
J'ai sorti un EP, hein. Il y a eu le premier album qui s'appelait Faut que ça bouge en 2015, et le deuxième que je voulais faire en album, finalement c'est transformé en EP, qui s'appelait Aluna. Parce qu'on a été, comme j'ai fait le festival à Luna, ça a été un peu précipité. Mais je devais sortir un deuxième album, donc ça a été un premier EP. Pourquoi un album? Parce que moi j'aime bien, j'aime pas les EP. J'ai jamais été sensible à, enfin j'aime pas, j'aime moins. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas fini. Je trouve que voilà, un album c'est vraiment on donne une part de soi, de A à Z. Alors ce sera une période de sa vie, mais le EP il y a toujours ce côté un peu inachevé qui me plaît pas trop.
Moi, ce qui me dérange chez les EP, c'est qu'il y a 3-4 titres, pas plus.
Et c'est voilà, tu peux aller jusqu'à 6. C'est pour ça que mon premier EP, il y en a 6 plus 2 en live. Donc ça fait 8 quand même. Mais effectivement, c'est très court. Ça... Mais après, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire pour un petit peu démarcher, c'est-à-dire pas trop t'engager dans des productions qui prennent du temps. Parce que moi, un album, ça me prend au final 2 ans. Comme je fais tout seul pour l'instant. Entre la conception, l'écriture, l'enregistrement et après tout ce qui est charte graphique, les clips à sortir, etc., ça prend 2 ans. Même plus là, je suis sur ma 3e année, tu vois. Je sais plus ce que je voulais te dire du coup, mais en tout cas, j'aime bien 12 chansons. Tu vois, je pourrais. Oui, c'est ça que je voulais te dire.
Mais 12, c'est très bien. C'est un bon numéro.
Ouais, j'ai été élevé à ça, moi, quand j'avais mes... Dans les années 70, t'avais 9 chansons derrière. Donc t'as encore des gens qui sortent des albums à 9 chansons aujourd'hui, mais il y a toujours un peu ce côté mi-EP qui me dérange. Et puis finalement, un EP, voilà, 4-5 titres, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tes EP, tu te les crées toi-même. Les gens se les créent eux-mêmes sur leur playlist, ils se les créent eux-mêmes. Étant donné que je sors un titre par un titre, et ben voilà, en fait, c'est des singles que tu sors, et au bout de 4, tu te dis que t'as fait un EP. Et physiquement, ça sert plus à rien de sortir trop, à part pour démarcher toi et avoir un peu de merchandising derrière si tu tournes.
Mais voilà, moi je préfère l'album, je trouve ça plus concret, plus plein et plus sincère.
Donc l'album, il sera prêt pour quand?
Alors j'espère fin 2021, parce que je m'arrête de produire en général l'été, parce que j'ai beaucoup de concerts, donc je peux pas tout faire. Donc là, je finis la 9e chanson, là, je suis en train de l'enregistrer, et j'espère finir recommencer septembre à décembre, les trois dernières.
Alors tu penses que cet album sera en physique ou pas?
Oui, parce que j'y tiens, je pense que tous les artistes y tiennent, et de toute façon, c'est un peu, tu peux pas t'en passer, c'est-à-dire on te fait croire que le CD, ça sert plus à rien, ce qui est pas faux d'une certaine manière dans la consommation des gens, mais en même temps, si t'as pas de CD, professionnellement, t'es pas pris au sérieux. Il faut que tu proposes quelque chose, il faut que tu proposes les deux, il faut que tu proposes les liens qui vont vers tes chansons sur le net, et il faut que tu proposes un CD physique derrière, avec une charte graphique, avec quelque chose qui est beau et qui montre que t'as passé du temps et du travail, et de l'envie dessus.
Peut-être un vinyle ?
J'y ai pensé, ouais. Bah, le premier EP, il était en digipack, il n'était pas en CD glace classique. Bon, même si c'était pas... Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire, mais du coup, j'avais voulu changer un petit peu. Et effectivement, là, le vinyle revient à la mode. J'ai vu même la cassette, d'ailleurs.
Ouais, la cassette.
Donc après, c'est une
après,
question de...
Sérieusement, ouais. La cassette, je vois pas trop ton intérêt quand même.
Non, après, c'est ce côté un petit peu... Ouais, voilà, ça surfe un peu sur ces... Il faut revenir un peu ce qui est... Ce qui était avant était d'une certaine manière mieux quand tu entends ça, enfin quand tu traduis ça, je sais pas. Moi j'ai toujours aimé les cassettes, mais après c'est juste pour avoir l'objet en lui-même, c'est peut-être pas pour le. C'est plus le support que le fait de l'écouter sur pour la qualité du son ou autre. Mais en tout cas, il y aura un CD, ça c'est sûr.
Et si je te parle des les chemins d'antan.
Ha.
C'est un spectacle musical.
Ouais. C'est une chanson à la base que j'ai écrite il y a 3-4 ans, que j'ai jamais sorti, que je joue sur scène, mais que j'ai jamais sorti parce que je veux vraiment la produire comme je l'entends, et ça me prend du temps cette chanson parce qu'elle est assez particulière, elle parle vraiment de moi, voilà, sur mon enfance, et du coup je me suis dit, voilà, les gens qui l'entendent autour de moi, qui l'écoutent, ils m'ont toujours dit il y a quelque chose dans cette chanson, donc je veux rien gâcher, et du coup c'est un peu un bébé que j'ai mis effectivement en scène dans ce nouveau spectacle que j'ai appelé avec ce titre éponyme. Et voilà, ça parle de le spectacle, il parle de moi, de mon enfance, de ma vie de musicien entre Nice et Paris. Voilà, on a scénarisé un petit peu ça, on a romancé ça parce que ça s'est passé et pas passé comme ça évidemment, parce qu'il fallait qu'il y ait un joli lien conducteur entre les chansons. Et en gros, c'est ma vie, c'est la vie d'un personnage, voilà, un musicien entre Nice et Paris qui va faire des rencontres professionnelles, amoureuses, insolites. Il va y avoir des périodes heureuses, malheureuses, de deuil, de reconstruction. Et les chemins d'antan, c'est ça en fait. C'est un moment, le personnage se rend compte que c'est ce brin de nostalgie qu'on a tous. Et le moment où il était le plus heureux sans s'en rendre compte, c'était sur ces chemins. Et il y a toute une histoire par rapport à où j'étais à ce moment-là, que représentent ces chemins pour moi dans mon enfance.
Et tu prévois de remonter sur scène, enfin sur les planches, avec ce spectacle bientôt, prochainement, enfin après le Covid?
Oui, bah on a une première date le 18 juin, si elle est maintenue, une grosse date sur Saint-Laurent-du-Var, dans ma région.
Ouais.
Donc là, ils attendent quand même... Enfin, logiquement, chaque année, ils ont 1000 à 2000 personnes. Donc là, c'est un concert gratuit, donc, mais là, je ne sais pas comment, s'ils vont limiter les places et tout ça, en fait, mais c'est quand même une très belle scène. Et cet été, il y a des dates qui sont normalement qui vont se concrétiser là, mais tout le monde est en attente. Et je suis très content parce que ce spectacle, il est, c'est mon deuxième spectacle, mais il est scénarisé, il y a toute une mise en scène, il y a des voix off qui apparaissent, il y a des comédiens qui m'ont fait confiance, des grands comédiens. Je sais pas si on va en parler là ou si on a le temps, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, tu as des comédiens comme Richard Darbois, Benoît Allemagne, Nicolas Marié, et tout ça, c'est des comédiens à la base qui sont connus dans le doublage, dans le monde du doublage. Et qu'en général, les radios connaissent, hein, quand tu dis Richard Darbois, de suite, ça... Voilà, et si tu veux, le spectacle sera joué, il y aura 15 chansons sur scène, et elles seront entrecoupées de 1 à 1 minute 30 de dialogue et de narration avec ces comédiens, donc il y a 8 comédiens en tout. Voilà, je suis très fier, enfin je suis très heureux d'avoir ces gens parce que je suis au-delà artistiquement, je suis fan parce que je suis un garçon des années 80, donc tous ces gens tu les connais inconsciemment, Et avoir par exemple Nicolas Marié, moi je suis fan de Nicolas Marié depuis des années, qui joue dans tous les films de Dupontel, là qui a eu le César la semaine dernière. Et quand tu les as au téléphone, bah, tu dois rester pro, mais en même temps, tu as ce côté petit enfant qui est en toi et tu peux pas trop le cacher à un moment, et tu leur dis je suis fan de vous, monsieur. Je suis extrêmement fan. Mais bref, tout ça pour dire que le spectacle, il a de la gueule, il a de la tenue, et surtout grâce à eux, grâce à ce casting.
Moi je voulais savoir avec quel artiste mondialement connu tu aimerais travailler.
Ah, c'est toujours les questions un peu. Mais moi, celui qui m'a le plus ébloui, donc c'est dans du rock US, effectivement, je vais pas mentir. Moi, c'était Steven Tyler du groupe Aerosmith. Et quand je vois ce mec, il y a toujours un truc. Même si aujourd'hui, je suis dans un délire musical beaucoup plus variété, chansons françaises ou pop électro. Voilà, je me remets toujours un petit Aerosmith derrière parce que j'aime ce qu'il propose, j'aime le côté décalé. Donc faire un duo, évidemment, si je devais choisir, ce serait Steven Tyler sans hésiter.
Moi, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur toi. Comment ça se passe? Je peux aller sur Internet? Est-ce que tu as un site Internet, peut-être?
Tout est en place. Moi, j'essaye de faire ça bien et mon équipe prend soin de mes idées. Donc effectivement, tu as tout, tu as le site internet, tu as la page YouTube, tu as le SoundCloud, on est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. Tu as la page Facebook, tu as l'Instagram, tu as tout.
Alors comment fait-on pour aller sur ton site internet?
Eh ben, c'est pas compliqué. Si on a retenu mon nom et prénom, eh ben, il suffit de taper Fabrice Solaire, tu rajoutes .fr et tu tombes sur mon site internet.
De toute façon, si on va sur Google et on tape Fabrice Solaire, ça fonctionne, on a la totale. Hein.
Eh ben, tant mieux, ça veut dire que mon webmaster travaille bien.
Ouais, sur YouTube, donc on peut découvrir tes clips et puis des extraits de concerts.
Ouais, un petit peu, il y a un peu de tout. En ce moment, je suis sur les clips lyriques, ça marche bien et ça me permet de produire. Voilà, quand je sors une chanson, je le sors vraiment de A à Z. Donc effectivement, tu peux la trouver en audio. On fait une pochette pour chaque chanson et on fait un petit clip lyrique derrière parce que les gens, du coup, sont très sensibles effectivement à l'image aujourd'hui. Et ça me prend un peu moins de temps à produire qu'un vrai clip normal où il faudrait se mettre en scène avec des acteurs ou autres, ou des musiciens. Et puis les gens voient les paroles tout simplement, donc voilà, je suis très content qu'on voit mes paroles ou celles de Gurvan ou d'Alexandre par exemple.
Tu es plus Facebook ou Instagram?
Moi, j'ai 35 ans passés, 38 maintenant, donc je suis plus Facebook. Moi je suis un peu Instagram parce qu'il faut le faire, et alors je suis pas du tout Snapchat ou je ne sais quoi. Donc je suis un enfant des années 80. Donc ce qui a marché en premier chez nous, c'est Facebook.
Donc si on veut avoir des infos, on va sur la page Facebook.
Ouais, après tu peux contacter, y a tout, il y a le mail, il y a le téléphone, il y a le Facebook, il y a l'Instagram. En général, ou moi ou mes équipes, mon équipe en répond. Mais effectivement, je suis plus actif sur Facebook, tout simplement.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des concerts live sur Facebook?
Pas tellement. Je sais que c'est en ce moment, c'est ce qu'il faudrait faire. J'ai peu de temps en fait. Enfin, mon projet me demande tellement de temps au niveau des enregistrements studio que j'ai pas trop envie de le faire. Mais ça va se faire en fait. Ça va se faire. Mais moi, j'ai pas trop envie de prendre un téléphone et chanter devant. Enfin, je juge absolument pas. Mais c'est pas trop. Je me sens pas à l'aise de faire ça. Si je le fais, je le ferai bien. Et là, avec mon ingénieur son, il a son studio, il est en train de monter ça, il a fait ses tests avec ses propres groupes là, et ça donne vachement bien avec un multicaméra, un vrai son. Ah,
mais je pense qu'il faut avoir du matériel. Hein.
Voilà, et là pour le coup, ce qu'il m'a montré lui, ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment, ça a de la classe, ça a de la gueule, et donc ça va se faire, mais je peux pas tout faire en fait. Là je suis en train de préparer le spectacle surtout.
Et si demain un particulier t'appelle pour que tu viennes chez lui pour faire un mini-concert?
Ben, c'est marrant parce que quand on avait fait j'ai fait deux Kickstarter à l'époque, et on avait mis ça dans la somme que tu donnes, tu pouvais effectivement débloquer le groupe qui vient chez toi. Donc oui, je le ferai bien sûr. Après, il faut voir pour le défraiement, enfin ce genre de voilà, si ça défraie, comment ça, quelles sont les conditions en fait.
Oui, c'est logique. Ouais. Très bien Fabrice, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant je pense qu'on a une belle image de toi sur Playlist à Radio. Toute la semaine on va écouter bien l'intégralité de tes titres. Tu vas avoir
adorable.
Un week-end complet où l'intégralité de tes titres vont être diffusés avec le meilleur des titres pop-rock.
Super.
Et puis voilà, tu as un dernier mot pour clôturer cette interview?
Ben, un dernier mot pour te dire tout simplement merci, merci pour l'accueil et pour ta sympathie. C'est toujours agréable de voir qu'on est écouté, entendu, et en plus que tu as un petit peu potassé mon profil, comme tous les
un
autres.
Un peu
artistes.
Quand même, un peu quand même.
ouais, non, mais des fois tu te retrouves, là, tu sens que c'est pas toujours le cas. Et puis voilà, j'espère que cette situation sanitaire pour tous les artistes va s'améliorer, et même pour au-delà des artistes, pour tout le monde. Et qu'on puisse retrouver la culture et les scènes.
Merci beaucoup. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur Fabrice Solaire, vous allez sur Google et vous tapez Fabrice Solaire. Vous aurez l'intégralité de la page Facebook, de YouTube, etc. etc. Merci Fabrice. Bonne journée.
Bonne journée. Salut.
Allez, au revoir.